Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, l'invité d'Escale est Diana Ofoana, la directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest. Elle revient sur le rapport Progrès des femmes dans le monde 2015-2016, transformer les économies, réaliser les droits. Un rapport publié il y a quelques semaines par l'ONU Femmes. Le rapport appelle à des changements radicaux dans l'agenda politique mondial en vue de transformer les économies et de concrétiser les droits et l'égalité des femmes. Diana Ofoana qui revient aussi sur les défis particuliers à relever en Afrique de l'Ouest.
Disons que 20 ans après Beijing, 15 heures après les OMD, bien entendu, et maintenant on est dans l'optique des objectifs de développement durable. On constate qu'il y a eu bien sûr des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Vous allez voir dans le rapport mondial de l'ONU Femmes, ce qui a été lancé cette année, que la situation de la femme, surtout dans l'économie, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a des grands écarts, par exemple, de salaire qui s'élèvent parfois à 30%, atteignant à 62,5% dans certains pays sahéliens. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. On voit aussi une situation, par exemple, où 75% des femmes sont dans des emplois informels. Dans ce cas-là, il y a des problèmes de couverture sociale qui n'est pas là. Les femmes, là, sont pas soumises au code de l'emploi avec tous les problèmes que ça entame. Ils ne sont même pas comptés dans ce qu'on appelle « the national budget ». Et ça pose un problème. Il y a les soins non numérés, unpaid care work, qui posent un grand problème. Dans la situation politique, par exemple, la participation des femmes dans les instances de prise de décision. En général, dans cette région, on voit qu'on est à moins de 30%. Et ça pose un problème quand même. Vous savez, Beijing avait recommandé un quota de un minimum de 30%, mais on n'est pas encore là. Il y a aussi tous les problèmes dans cette région de la sécheresse, le problème surtout du Sahel, qui est un amalgame de tous les problèmes de développement. Et là encore, on voit que les femmes sont encore plus loin par rapport aux problèmes de changement climatique, par rapport aux sécurités alimentaires, la participation dans des instances de prise de décision. C'est la région avec les indices humains les plus bas au monde, des taux de maternité mortelle et infantile les plus élevés au monde. Il y a des défis vraiment importants.
Alors justement, quels sont aujourd'hui les jalons, quels sont les premiers éléments qu'on peut mettre en place pour essayer de corriger ces manques de progrès? Vous parliez par exemple des mandats électifs, moins de 30% de femmes dans la région. Donc comment aujourd'hui ONU Femmes peut essayer d'aider donc la région à augmenter ces pourcentages?
Vous savez, pour aborder des questions aussi importantes, il faut quand même que la situation soit mise à l'avant. Et c'est ça qu'on a essayé de faire en publiant le rapport qu'on fait tous les deux ans, le progrès des femmes dans le monde 2015-2016. On est parti d'une compréhension ou une analyse profonde de la situation. Quel est le problème de cette région? Et vous savez, on a affaire avec un nouveau défi qui est vraiment très, très grave de radicalisation. Et ça appelle à une réponse inclusive de tous les acteurs. Pour nous, à ONU Femmes, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé d'avoir des programmes d'abord de gouvernance dans cette région qui, en même temps, essaie d'encadrer les femmes surtout qui s'intéressent dans la politique, de s'y impliquer et d'avoir des outils pour entrer dans la politique et dans les autres institutions de prise de décision. Deuxièmement, on a des programmes humanitaires, on a des programmes de santé maternelle et infantile. On a un très grand programme ONU-FAM de Ebola, lutte contre l'Ebola, c'est-à-dire que plaidoyer. Vous savez, les femmes sont quand même les chefs de ménage. Elles sont toujours là avec la famille, avec les enfants. Et on a vu que c'était très important de les sensibiliser sur tout ce qui est hygiène, toutes sortes d'informations qu'on voulait passer par les femmes. On l'a fait et ça a eu un impact très important dans cette lutte contre Ebola. Pour l'économie, on a toujours eu des programmes avec les femmes, programmes d'autonomisation économique et d'appui pour un plus grand accès au financement. Et on a pensé aussi que ce rapport avec les recommandations qu'on a faites pouvait aussi attirer l'attention des politiciens et de ceux qui font des politiques pour prêter une attention plus particulière aux droits économiques de la femme. On avait dit, par exemple, on vous invite à imaginer une économie qui sert les intérêts des femmes. Ça serait un monde vraiment très différent. Et on avait donné trois grandes clés, trois grandes recommandations. Comment, par exemple, premièrement, on avait recommandé de transformer le travail pour réaliser les droits des femmes. Et qu'est-ce qu'on voulait dire exactement par ça? Que si vraiment l'économie servait les intérêts des femmes, celles-ci auraient les mêmes chances que les hommes et un accès égal aux ressources. On dit toujours, on ne peut pas utiliser un main, laisser le deuxième et attendre d'avoir un résultat important. Il faut toujours avoir les deux mains en train de travailler ensemble pour avoir un bon résultat et contribuer vraiment à la pérennité de l'économie.
Assister sur le plaidoyer, donc ces actions concrètes menées par donc votre organisation dans la région avec, on le rappelle, les défis, la radicalisation par exemple, ou les problèmes de santé, Ebola bien sûr, qui est venu aggraver la situation. Est-ce que sur ces questions-là, ce plaidoyer, vous l'axez aussi par rapport aux hommes? Est-ce que vous sensibilisez les hommes? Est-ce que d'abord, ces plaidoyers, ce sont des formations, ce sont des réunions que vous organisez? Quelles sont les formes de plaidoyer? Quels sont les outils que vous utilisez?
Il y a différents formats. Ça dépend de la situation. C'est très important d'impliquer les hommes. Même si la plupart des actions sont visées aux femmes, ça ne fait pas grande différence si les hommes ne sont pas impliqués. Donc, ils sont impliqués, surtout quand il s'agit de lutte contre le viol en fait à l'égard des femmes. Vous êtes sûrement au courant de notre grande campagne qui est « He for She », en français « Lui pour elle ». Là, exactement, on est en train de solliciter les hommes pour venir et s'impliquer de façon plus accentuée sur tout ce qui est « Gender Equality and Women's Empowerment », égalité des sexes. Je suis revenue ce week-end du Sahel, du Tchad, où on a eu une grande conférence de Forum des femmes sahéliennes, où on a abordé pas mal de sujets, les plus importants étant la lutte contre la radicalisation et l'implication des femmes dans le développement du Sahel. Et c'est justement cette question qui était revenue, la participation des hommes dans tout ce qui est lutte contre la radicalisation et l'implication des femmes, surtout dans les instances de prise de décision. Vous voyez, par exemple, avec les frontières qui ne sont pas gérées, ils sont tellement larges, c'est très difficile de vraiment les gérer à leur entièreté. Vous avez les jeunes qui, de plus en plus, à faute de trouver de travail après l'école ou qui ne sont pas été à l'école, qui sont facilement attirés à radicalisation, qui partent pour aller dans le désert faire l'entraînement et les drogues et les trafics de drogue, trafic des êtres humains. C'est important dans ce cas que, et que les parents, que tout le village, toute la communauté soient fortement impliqués dans l'éducation de ces jeunes, dans la recherche des opportunités et du travail pour les jeunes. Donc, c'est une chose que les femmes ne peuvent pas faire seules. Il y a des défis, il y a des grands défis dans cette région. Il y a beaucoup à faire et je pense que c'est vraiment au niveau surtout des chefs d'État d'impliquer de plus en plus les chefs d'État dans tout ce qu'on est en train de faire. Et à mon avis, cette campagne, lui pour elle, dans notre région, devrait prendre l'ampleur comme on a vu récemment avec le président du Sénégal, président du Sierra Leone, du Kenya, du Rwanda, qui maintenant prend le devant pour vraiment assurer que toutes les questions genre deviennent plus importantes. Ils ont réalisé que sans s'impliquer, sans vraiment mettre l'accent sur les questions genre, il y a un grand risque que les objectifs du développement ne soient pas atteints.
Justement, par rapport à ces objectifs dont vous parliez, ces objectifs qui doivent être en principe adoptés pour les 15 prochaines années en septembre prochain à New York, également à la suite de la conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement, donc qui a également mis la femme au centre de l'économie, du développement pour les prochaines années, quelles sont les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui d'urgence pour que les femmes soient au centre finalement de la gouvernance, au centre de l'économie ?
Dans l'économie, il y a trois niveaux qui sont extrêmement importants. Premier niveau, c'est au niveau normatif, au niveau de politique, au niveau de l'État. Si un budget n'est pas réservé dans tous les secteurs de l'économie pour des questions genre dans ces secteurs, ça serait vraiment, vraiment très difficile d'avoir des programmes dans des différents secteurs qui vont élever le statut de la femme. Donc, au niveau du gouvernement, la budgétisation sensible aux genres, c'est une nécessité. Les pays doivent en prendre en compte. La politique du travail, decent work, un environnement propice à la femme, est quelque chose dont les gouvernements doivent prendre soin. C'est vraiment pour les générations à venir. Deuxième niveau, on a beaucoup de programmes autour de crédit pour les femmes, mais c'est vraiment à un niveau micro-crédit. Vous savez bien que ça aide, mais ça aide au niveau de foyer. Pour changer une économie, il va falloir un niveau d'engagement un peu plus haut que ça. Il va falloir que les femmes entrent dans l'optique de Financing for Development, où elles ont accès au grand financement, au financement pour faire des usines et au financement à un bon pourcentage. Des financements innovateurs, toutes sortes d'options différentes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Il va falloir aussi un esprit d'entrepreneuriat qu'on introduit. Cet esprit et de cette compétitivité et vraiment impulser le secteur privé et avoir beaucoup plus de femmes qui participent. Et la troisième chose est d'avoir beaucoup plus de femmes dans le leadership des institutions financières. Nous gardons toujours l'espoir que suite à la troisième conférence de financement pour le développement, que la question genre restera toujours au centre de toutes les décisions qui vont suivre et surtout les financements débloqués pour assurer que la mise en œuvre des programmes post-2015 seront des programmes qui vont assurer que tout ce qui n'a pas été fini depuis Beijing, ça sera l'occasion de les achever.
Voilà, et c'est avec Diana Ufuana, la directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest, que se referme ce magazine Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Jérôme Longuet et réalisé par Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.